Elle va prévenir les voisins qui déboulent et font tout de suite des compliments sur les chevaux. Une chance que les voleurs ne les aient pas pris, c'est sûr. Mais on peut les comprendre, ce sont de très beaux chevaux. Les voisins reviendront ce soir, on partagera le repas. Jamila ne connaît pas la France, mais Bektash en a entendu parler par son grand-père, que l'ère soviétique avait saoulé de révolutions françaises et de grands noms. La maison est très simple. Un bloc, presque un cube, des briques rudimentaires, quelques fenêtres. Mais il y a une tonnelle à l'extérieur et il fait beau. La journée va être douce. Sibyl voudrait les remercier sans fin pour leur aide. Mais c'est eux, Bektash et Jamila, qui semblent les plus heureux de cette rencontre. Peut-être parce qu'ils ne voient pas souvent de nouvelles têtes, ou, plus probablement, parce qu'ils sont accueillants comme le sont les Kirghiz, sans qu'on ait besoin de justifier leur gentillesse. Des voyageurs viennent de plus en plus, c'est vrai, et parmi eux beaucoup de Français. Pourtant, ils restent rares, car le Kirghizistan n'a pas beaucoup de structures d'accueil, peu de routes viables, peu d'hôtels confortables. Les voyageurs sont plutôt des sportifs ou des amateurs de grand air, des cavaliers aussi, car ici, comme dit le proverbe, celui qui n'a pas de cheval n'a pas de pied. Ils ont mis les chevaux à paître chez Taberbek, le voisin, qui a un enclos et suffisamment d'herbe pour que les animaux puissent brouter et boire toute la journée. La rivière, maigre pendant cette saison, ne s'assèche jamais entièrement. Un seau d'eau, Taberbek l'offre volontiers. Jamila veut préparer le repas et laisse les deux invités s'installer dans une pièce un peu à l'écart de la maison. Quand ils y entrent, Sibyl et Samuel sont saisis par l'odeur de poussière. Un bourdonnement de mouches contre une bouteille en plastique. Une odeur de savon, et puis une autre de lait de brebis. Une autre encore, plus forte celle-là, de fruits pourris que ni l'un ni l'autre ne sont capables d'identifier. De vieilles couvertures en laine marron pour faire un matelas. Un seau en fer blanc pour aller puiser de l'eau à 300 mètres en contrebas, où, leur a assuré Jamila, la rivière les attend avec son eau qui vient tout droit des glaciers. La même que pour les chevaux, c'est dire qu'elle doit être bonne. Jamila passera les voir plusieurs fois dans la journée, pour leur offrir du thé, mais aussi, dans une vieille bouteille en plastique, du bozo, une boisson fermentée à base de grains de mil qui a un léger goût de bière et quelques degrés d'alcool. Sibyl et Samuel resteront ici sans bouger, s'occupant seulement de se reposer, de laver un peu de linge et de trouver où le faire sécher le plus facilement au soleil, sur le rebord d'une chaise, sur une table. Avec le léger vent, ça ira vite. Assis par terre sur une des vieilles couvertures, les écouteurs pendouillants et non pas enfoncés dans les tympans comme à chaque fois qu'ils avaient un moment tous les deux, face à face, comme si cette fois c'est lui qui avait décidé de parler, Samuel regarde sa mère. Il semble attendre quelque chose, peut-être de prendre la parole, mais il ne dit rien. Elle le voit, elle s'étonne, mais elle sait très bien ce qu'il pense et ne dira sans doute pas, parce qu'alors il le dirait avec des mots qu'il ne pourrait plus retenir et qui seraient ineffaçables par la suite. Ce qui est dit, même si on essaie de se rattraper en prétendant qu'on s'est laissé emporter par la colère, l'émotion, parce qu'on voudra, prétendant que les mots ont dépassé la pensée. Mais non, Sibyl le sait, son fils aussi, les mots qui sont dits sont juste ceux qui ont assumé la vitesse de la pensée. Et Samuel, des pensées irrécupérables, il en a souvent. Il en a précisément en ce moment où il regarde sa mère en train d'essorer ses t-shirts. Alors elle se sent épiée. Elle s'arrête et regarde son fils. En 3 semaines, il a déjà physiquement beaucoup changé. Il a perdu quelques kilos, ses cheveux ont repoussé et il perd cette tête de skin qu'il avait voulu se donner pour plaire à ses copains. Il a encore une tête de bagnard, mais cette fois, ça lui va plutôt bien. Son teint hâlé adoucit ses traits. Mais son expression, ses yeux, restent sévères. Cette fois encore, il ne dit rien. Cette fois encore, Samuel se renferme en glissant, presque sans s'en rendre compte, ses écouteurs dans ses oreilles, appuyant sur la touche play, lançant la musique pour s'éloigner de sa mère et des montagnes, de ses ciels, de ses heures de route à cheval, où il ne fait qu'attendre qu'on en finisse, prenant son mal en patience, parce qu'il n'avait pas eu le choix. Oui, dans son esprit c'est sûr, on ne lui a pas laissé le choix. L'histoire avait commencé quelques mois plus tôt. Samuel décrochait à tous les niveaux, scolaire, mais pas seulement. Comme si même dans sa façon d'être, soudain plus rien ne répondait. Comme s'il n'était plus capable de savoir s'il faisait chaud ou froid, et de s'habiller en conséquence. Comme s'il n'était plus capable de savoir quel jour de la semaine on était. Comme s'il était incapable de savoir s'il était seul ou avec quelqu'un dans une pièce. Comme s'il confondait le jour et la nuit.